Bien, je pense que nous pouvons commencer sans léser personne. Il n'y aura pas de plainte parce que j'ai une minute ou deux d'avance. Et je vais prendre donc la suite de ce que j'avais commencé à présenter la fois précédente et entrer dans cette question un petit peu complexe des lectures. Vu ce problème, vu par des usagers comme nous, d'un autre type d'écriture, la répartition des variantes du Coran que j'avais signalé entre rasm, c'est-à-dire le squelette consonantique, et dapt, c'est-à-dire tous les points qui se situent autour de ce squelette consonantique, peut surprendre dans la mesure où ça semble quelque chose de tout à fait artificiel. Pour prendre un exemple, ce que j'avais donné la dernière fois, deux formes d'un verbe, l'impératif de la deuxième personne du singulier, cool, c'est-à-dire dit, et la troisième personne du singulier de l'accompli, c'est-à-dire du temps passé de ce verbe, kala, relève, quand il s'agit de variantes, des premières, c'est-à-dire variantes du rasme, alors que la différence entre deux formes d'un autre verbe, les deuxièmes et troisièmes personnes du pluriel de l'inaccompli, yakulun et ta'akilun et ya'akilun, font intervenir le dapt, les points, parce que la première lettre, un ya ou un ta, c'est-à-dire un deuxième ou une troisième personne, varie en fonction des points qui sont placés au-dessus ou en dessous. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que toutes les variations sur les formes verbales doivent être placées dans le même sac. Non, ça n'est pas le cas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans deux réalités différentes pour les utilisateurs de l'alphabet arabe et pour les spécialistes des lectures dont je vais parler assez abondamment aujourd'hui. On va revenir un instant sur le témoignage que je ne vais pas relire de Zuhri, celui qui est transmis par Tabari, et notamment de ce qu'il dit de l'objectif qui avait été poursuivi par le calife Osman, c'est-à-dire établir un texte qui ne laisserait absolument aucune place aux divergences pour pallier justement à celle qui s'était manifestée lors de cette expédition contre l'Arménie. Ce point, en fait, est un anachronisme. Le système d'écriture employé vers le milieu du 7e siècle, auquel je faisais référence également la dernière fois, ne permettait pas d'y parvenir parce que les copistes ne disposaient tout simplement pas des outils nécessaires pour le faire. Vers la fin de sa vie, Zuhri, à qui on doit ce témoignage, a connu en revanche un état plus développé de l'écriture et de sa pratique qui autorisait effectivement à noter le texte de manière beaucoup moins ambiguë. Peut-être la familiarité avec les manuscrits qui dataient de cette époque, de la fin de sa vie, ont influencé la rédaction de son récit, qui est en fait une combinaison d'informations d'origines diverses. Il faudra toutefois encore plus de deux siècles pour que la notation du texte atteigne un niveau équivalent à ce qu'il est de nos jours, à quelques détails près. Le récit que vous voyez sur l'écran et qui concerne la collecte réalisée à l'initiative du calife Osman, est de toute évidence une réécriture post-eventum contaminée par des données postérieures. Les deux récits de cet épisode, celui de Bukhari et celui de Tabari, s'achèvent de la même façon sur la réalisation d'un ou plusieurs mushaf, masahif, c'est-à-dire le terme qui désigne une copie manuscrite, ou maintenant imprimé, du Coran. Comme je l'ai suggéré plus tôt, nous pouvons faire l'hypothèse qu'il s'agissait d'un codex, c'est-à-dire d'un livre tel que ceux que nous connaissons. Selon Bukhari, des copies furent établies presque sur le champ, les fameux Masahif al-Amsar, donc les Corans avec un C minuscule des camps militaires des musulmans, des exemplaires de référence dont le nombre est discuté et qui furent envoyés dans les endroits de l'Empire où il y avait une grosse concentration de musulmans attirés là par les guerres de conquête. Aucun de ces manuscrits n'a été préservé. En ce qui concerne celui de Haussmann, qui est souvent identifié comme la copie qui était restée à Médine, qui était alors la capitale de l'Empire musulman, nous disposons du témoignage très certainement fiable de Malik ibn Anas, le fondateur entre guillemets de l'école de droit malikite, qui était lui-même médinois. Interrogé sur le devenir du manuscrit, le savant médinois, qui est mort en 796, donc un peu plus d'un siècle après les événements, mais suffisamment, ces événements étaient encore suffisamment récents pour que la mémoire populaire les conserve à Médine. Interrogé donc sur le devenir du manuscrit, il avait répondu qu'il avait disparu, et nous pouvons sans doute lui faire confiance, car il était très au fait de ce qui se passait dans la chronique locale. On objectera que dans le monde musulman, plusieurs Corans de Haussmann sont attestés tant par les textes qui signalent leur présence sous forme de manuscrits que nous tant sous la forme pardon de tant par les textes qui signalent leur présence que par des manuscrits réels comme celui que vous avez sous les yeux qui ont au dire de ceux qui les approchent ont été réalisés sur l'ordre du calife ou encore qu'il était en train de lire au moment où il fut assassiné. Vous savez que Haussmann a été assassiné par une troupe de gens qui lui reprochaient toutes sortes de choses, et on rapporte qu'il était en train de lire le Coran, et d'ailleurs, dans certains endroits, on vous montre le Coran avec des gouttes de sang qui se trouvaient en fait les voyelles brèves qu'on a introduites par la suite. Mais comme c'est rouge, les gens pensent que c'est du sang de Haussmann. Dans la bibliothèque de Topkapı Saray à Istanbul, il n'y a pas moins de 3 manuscrits qui sont des Corans dits de Haussmann, ce qui fait beaucoup dans la mesure où, si on additionne tous ceux qui sont dans ce cas dans le monde, on dépasse largement les 4 ou 5 copies qui, d'après la tradition, ont été envoyées par le calife. Les progrès et la multiplication au cours de ces dernières années des datations utilisant la méthode du C14 pour dater le parchemin, mais également une connaissance plus précise de la paléographie et de l'histoire du texte, nous permettent de savoir que les plus anciens, comme celui-ci ou comme d'autres, sont en fait des manuscrits du 8e siècle. La majorité sont même plus tardifs, et il est donc très difficile de faire fond sur leurs témoignages pour se faire une idée de ce qu'était le Coran de Haussmann, ce qui n'est pas sans importance, puisque vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai fait allusion au fait que l'édition du Coran qui fait autorité, l'édition du Caire de 1924 et celles qui ont suivi son chemin, reposent en principe sur l'autographe haussmannienne. Mais vous voyez que les Corans de Haussmann n'étant pas là, il est difficile de parvenir à une certitude en ce qui concerne cet orthographe. Revenons maintenant à l'histoire du texte manuscrit. Un hiatus apparaît entre la mise par écrit dont je viens de parler et l'opération de copie qui lui a succédé. Comme je l'ai signalé, Tabari précise que le texte fixé par Zayd ibn Thabit, donc l'homme qui a été en quelque sorte la cheville ouvrière de cette opération, aussi bien dans ce qu'on rapporte de la mise par écrit sous le premier calife Abu Bakr que sous Haussmann, donc Tabari précise que le texte fut ensuite, et je souligne ensuite, soigneusement collationné sur les feuilles de Hafsa, une vérification que le récit conservé par Bukhari n'évoque pas, probablement parce qu'il dit tout simplement que le texte a été copié depuis les Suhuf de Hafsa sur un autre codex. La diffusion du texte haussmannien représente l'étape suivante de l'opération lancée par le calife. Les exemplaires qui ont résulté de cette opération ne furent toutefois pas aussi similairement identiques à l'original que ce qui nous est dit initialement, puisque un certain nombre de particularités textuelles, une quarantaine au total, se seraient introduites dans le texte. Elles concernent très strictement le rasme, c'est-à-dire qu'elles ne portent que sur le squelette consonantique et se subdivisent en 4 ou 5 groupes dont chacun est spécifique de tel ou tel manuscrit. Vous avez par exemple les variantes du manuscrit de Koufa, celles du manuscrit de Médine, de Basra, etc. L'ajout d'un autre manuscrit, celui de la Mecque, est postérieur au récit de Bukhari, les quatre copies haussmanniennes concernées étant celles que le calife aurait envoyées donc à Damas, Basra et Koufa, ainsi que celle qui demeura à Médine. L'ajout de la Mecque n'est pas surprenant, il était bizarre, disons, pour des musulmans de génération ultérieure, que la Mecque n'ait pas été destinataire de l'envoi d'un de ces manuscrits. Alors, variante entre ces différents manuscrits, 40 variantes au total, et chacune avec son jeu de variantes propres. Quelle est leur origine ? Nous sommes tentés de penser, même si nous n'avons pas de renseignements donnés par la tradition musulmane, qu'il s'agit de fautes de copie, des inattentions, par exemple, lors de la transcription du texte, mais cela veut dire que l'origine de ces variantes est strictement humaine. Sur ce point, nous n'avons encore une fois pas d'explication, pas de reprise de cette donnée par la tradition musulmane qui ne commande pas, mais qui accepte, disons, l'existence de ces variations. Au plus, pourrait-on faire le rapprochement à propos de ces variations avec un hadith dont on connaît différentes versions et où un compagnon, généralement Osman, affirme qu'il existe des fautes dans le Coran. C'est un hadith qui trouble actuellement encore un certain nombre de musulmans dans la mesure où la langue du Coran est réputée être parfaite. C'est la langue de Dieu. Et donc, dire qu'il y a des fautes, c'est un petit peu blasphématoire. Et on a encore actuellement des bons savants, qui essayent de montrer qu'en fait, ce qui est considéré comme une faute ne l'est pas, mais que c'est une subtilité, disons, de caractère rhétorique. En tout état de cause, les spécificités du rasme sont une des caractéristiques des qiraat, donc qui entrent dans le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Donc elles sont très, en principe très précisément localisées chronologiquement, 656 au plus tard, et elles s'intègrent dans cet ensemble de variations. Alors, la chose intéressante, c'est que ce sont des variantes écrites qui correspondent à un processus de transmission écrit. Et justement, la dépendance vis-à-vis de l'écrit que suppose le récit de l'entreprise de Haussmann, que je vous montrais à l'instant, n'a pas manqué de surprendre des commentateurs musulmans postérieurs. La raison même invoquée par le calife pour entreprendre de mettre par écrit le Coran implique en effet qu'il faisait davantage confiance à la transmission écrite qu'à l'oral. Une même observation peut être faite quand on considère les traditions qui concernent la mise par écrit sous le premier calife Abou Bakr. L'argument est légèrement différent. Ce n'est, dit-il, qu'en mettant par écrit les révélations qu'il sera possible de les sauver de l'oubli, alors que nombre de musulmans venaient de mourir au cours de batailles lors de cet épisode qui a suivi la mort de Muhammad, au cours duquel un certain nombre de gens qui s'étaient ralliés à l'islam se sont rebellés, ont décidé de reprendre leur indépendance et d'aller de leur côté. Donc, les raisons ne sont pas strictement les mêmes, mais la conséquence est la même. Seul l'écrit peut maintenir le Coran intact. Alors, sans avoir une connaissance exacte de l'état de la tradition manuscrite au 7e siècle, et notamment sans savoir que le dapt n'y était pas noté, ces commentateurs ont cherché à rendre sa place à une composante orale sans doute davantage en harmonie avec l'enseignement traditionnel, et plus à même aussi de souligner un élément important dans la vision que les savants musulmans médiévaux avaient de la transmission du savoir, c'est-à-dire la continuité de la chaîne de transmission, ce qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire une sorte de chaîne avec des maillons qui représentent chaque génération de transmetteurs. Sous la plume d'un commentateur égyptien du siècle dernier, le 20e, Az-Zarqani, un court récit pour lequel aucune référence n'est fournie, rapporte que Haussmann aurait envoyé les fameuses copies dans les provinces en les faisant accompagner par des lecteurs. Cette présentation, alors ça, c'est les manuscrits, disons, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est un texte parfaitement nu, sans aucun point, contrastant donc avec ce que vous connaissez si vous avez vu une édition moderne du Coran. Donc, revenons à Zarqani. La présentation de cette idée que les Corans étaient allés accompagnés par quelqu'un qui récitait le texte est en fait un peu plus ancienne. Viviane Comero avait en particulier estimé que Hussein al-Bahawi, donc un savant du XIIe siècle, était à l'origine de cette notion, mais il ne citait que 5 lecteurs dont la qira'a remontait sans plus de détails à ses 5 compagnons, donc qui constituent la première liste, Ubay, Osman, Ali, Ibn Masoud et Zayd, donc les noms les plus classiques. Le savant en question, al-Bahawi, ne précisait pas de manière très nette qu'il y avait une relation entre tel homme et tel Moussaf. Zarqani, donc plus près de nous, puisqu'il est mort en 1948, offre une image plus rationnelle de cette transmission en mettant cette fois-ci en relation des compagnons moins illustres, puisque vous voyez qu'entre ma première liste où se trouvent deux califes, Zayd ibn Thabit, qui est un personnage important dans cette affaire, et Ibn Masoud également, donc sans faire appel à des gens aussi célèbres, il explique que Osman avait envoyé des lecteurs avec chaque manuscrit, et ils donnent les noms. Donc vous avez Abdallah ibn Saïd, par exemple, qui est allé à la Mecque, ou encore Amir ibn Abd Qais, qui est allé avec le codex de Basra. Donc c'est une image, en quelque sorte, synthétique. Le rasme représenté par le manuscrit voyageant avec, à côté de lui, quelqu'un qui était capable de mettre la vocalisation. Alors ces données, ce savant les a empruntés à la tradition. Il a trouvé, ce ne sont pas des noms qui sont inventés, ce sont des gens qui sont parfaitement connus et dont on a d'ailleurs bon, les dates de mort, sauf pour un d'entre eux, où c'est très imprécis, mais on a leur biographie, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, quel a été leur parcours, même si c'est de manière assez brève. Mais le problème, c'est que d'autres données empruntées à la tradition jette un doute sur le fait que tous ces lecteurs, chargés pourtant de garantir la transmission fidèle de l'enseignement de Muhammad, aient été à même de le faire. Ainsi, le lecteur Abu Abdurrahman al-Sulami aurait récité le texte coranique devant les califes Osman et Ali, d'après ce qu'indique Ibn al-Jazari. Mais un auteur antérieur à ce dernier, al-Dhahabi, qui est mort en 1348, rapporte les propos d'un autre lecteur, Shurba, qui contestait qu'As-Sulami ait pu apprendre quoi que ce soit de Osman, une position partagée par un auteur encore plus ancien, Ad-Darakutni, qui était mort en 995, qui considérait que As-Sulami n'avait absolument rien appris avec Osman. De surcroît, ces deux auteurs médiévaux signalaient qu'As-Sulami n'avait entendu qu'une partie du Coran. Donc, la présentation d'Az-Zarqani paraît être une reconstruction qui est guidée par le souci de restaurer la place de la transmission orale en s'inspirant sans doute de dictionnaires biographiques spécialisés. Les masahifs, accompagnés chacun par un lecteur, voilà une image qui est réconfortante pour la présentation traditionnelle et redonne sa place à l'oralité, grande absente des récits du hadith. Et bien qu'Az-Zarqani n'ait sans doute pas su à quoi ressemblaient les manuscrits coraniques les plus anciens, son récit estompait l'absence de dapt sur ces derniers, puisque, en quelque sorte, la présence du lecteur apportait le dapt qui manquait. Donc, tout était bien et tout se terminait bien. Bien que dépourvu de fondements historiques, ce récit de l'envoi des Masaïfs à l'Amsar avec l'accompagnement d'un lecteur a connu un certain succès. Actuellement, dans des ouvrages qui concernent justement les manuscrits anciens, la transmission ancienne, vous voyez réapparaître très régulièrement ce récit, parfois même sans dire qu'il vient d'Al-Zarqani, mais c'est devenu une solution commode pour enjamber un problème réel dans l'histoire du Coran. Le texte de Haussmann, représenté de nos jours par l'édition de 1924, dont voici une photo, et ses épigones, parce que les Corans que vous achetez maintenant, un Coran imprimé, sont généralement des Corans qui reprennent ce modèle, qui apportent quelques petites modifications, mais fondamentalement, le texte est celui que vous avez là, et son orthographe surtout. Donc, le texte de Haussmann, représenté par cette édition, occupe une place à part. C'est lui qui, répondant aux objectifs que la tradition prête au calife, s'est imposé à l'islam de manière très lente, puisque la dernière étape, c'est 1924, la publication de ce texte qui finit par estomper tous les autres. Comme l'a montré Viviane Comero, l'orthodoxie a imposé cette version des faits au travers d'un travail de sélection et d'écriture qui est venu appuyer l'action accomplie dans d'autres domaines par ceux qui s'efforçaient d'instaurer un texte unique. Mais il est important de voir que cette instauration a nécessairement été progressive, parce que la notation est passée par différentes phases, chacune faisant un progrès vers plus de précision et, disons-le, vers une limitation des variantes. On peut tout à fait estimer que cette démarche, qui, si on accepte dans ces grandes lignes l'historicité de l'initiative de Haussmann, ne s'est approché de sa phase finale, comme je disais, que très récemment, avec l'édition du Caire de 1924. Maintenant, c'est extrêmement rare de rencontrer les autres versions, qui sont tout à fait aussi canoniques, mais qui n'ont pas bénéficié de la, de la qualité du travail qui est derrière cette édition, et deux, de cette espèce de succès universel qu'il a reçu. La transmission orale pose à l'historien des problèmes parce qu'elle est connue à travers des témoignages plus tardifs, dont on soupçonne qu'ils manipulent les données afin de présenter un édifice cohérent. Et ça n'est pas un reproche. Si vous voulez, le hadith est une source extrêmement problématique parce que vous avez des renseignements qui vont dans tous les sens. Parfois, sur le même sujet, vous avez des avis contraires. Et il y a donc tout un travail de critique parce que certains hadiths s'avèrent faux. Ce sont des inventions qui ont été mises en circulation pour soutenir une position contre une autre. Et parfois, ce sont des choses qui ont été déformées au cours de la transmission. Et donc, même pour les spécialistes actuels, réussir à faire la synthèse entre ces différentes informations, c'est un exercice extrêmement complexe. Mais le but est effectivement, à la fin, d'essayer de proposer un édifice, quelque chose de cohérent. L'enjeu de cet effort n'est pas peu. Étant donné l'importance donnée à la transmission orale, il est essentiel qu'elle soit inattaquable et la meilleure façon d'y parvenir est de montrer qu'elle a été réalisée par un grand nombre de personnes qui ont œuvré de manière indépendante et qu'elle est, pour reprendre le terme technique dans la terminologie du hadith, mutawatir, c'est-à-dire que simultanément, sans se connaître, différentes personnes transmettent une information. Et le fait donc qu'il y ait autant de témoins qui sont d'accord sans se connaître, donc il n'y a pas eu de collusion, c'est quelque chose qui donne la garantie maximum qu'on puisse espérer. Mais même en travaillant, comme l'ont fait les spécialistes médiévaux, sur les chaînes de transmission, des points importants restent obscurs, par exemple les tout premiers stades de ces transmissions ou encore le contenu de l'enseignement de ceux qui sont les autorités de départ, les 7 ou 10 lecteurs, ce que l'on appelle les imams, puisque nous ne connaissons, pour simplifier leur lecture, qu'à travers la transmission de 2 de leurs élèves, et ces transmissions de 2 élèves ne s'accordent pas entre eux, ce qui introduit bien sûr un élément de doute sur lequel finalement il n'y a pas de réponse très claire. La seule transmission en fait dont nous puissions suivre historiquement le développement est donc celle qui a eu lieu par écrit, parce que nous avons des manuscrits, nous avons des textes, certains ont parfois des fautes parce que les copistes faisaient bien sûr des erreurs en transcrivant un texte, mais disons qu'on a suffisamment de renseignements pour pouvoir confronter les manuscrits entre eux et vérifier le texte qu'ils donnaient. Les manuscrits comme celui-ci ne conservaient en raison de l'état d'écriture arabe qu'une partie de l'information qui est nécessaire pour éliminer tout risque d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'un choix délibéré, encore une fois, mais tout simplement de la conséquence de la nature même de l'alphabet arabe, lequel partage d'ailleurs ce trait avec d'autres alphabets sémitiques, par exemple avec l'hébreu, et on notera que l'arabe et l'hébreu se sont notés de voyelles pratiquement en même temps, c'est-à-dire que vers la fin du 7e, début du 8e siècle, il y a eu sans doute une réflexion qui a été lancée au Proche-Orient sur la façon de noter les voyelles brèves et qui a donné les deux systèmes que nous connaissons pour l'arabe et pour l'hébreu. Certes, un arabophone peut lire aisément un texte sans voyelle, mais quand les diacritiques sont également absents, la tâche devient plus compliquée puisque là, il faut identifier, par exemple, les personnes, identifier les formes, et donc le travail est un peu plus complexe. Mais il est faisable, disons, pour un texte banal. S'il s'agit d'un texte de journal, par exemple, d'une nouvelle, l'enjeu n'est pas très important. Mais quand on est en face d'un texte aussi important que le Coran, la nécessité de parvenir à un niveau de notation qui ne laisse pas place à l'ambiguïté est évidente pour tous les acteurs de cette histoire, ce d'autant plus que l'islam, en transformant ce qui était à l'origine une religion des Arabes, et je cite par exemple le verset du Coran bien connu, écriture dont les ayats ont été rendus intelligibles, en une révélation arabe pour un peuple qui sait. Donc ça, c'était, disons, un message initial. Mais de ce stade initial, on est passé à une religion universelle pratiquée très tôt par des fidèles qui ne connaissaient pas la langue de la révélation. Et donc, il fallait mettre à leur disposition un texte qui ne soit pas susceptible de déformation. Donc il était très important d'inventer les outils pour y parvenir. On notera bon, que dans d'autres traditions, je pense par exemple au Veda, on a des techniques de mémorisation qui existent et qui permettent de mémoriser, enfin de transmettre oralement ces textes très complexes, mais ces techniques mnémotechniques sont le résultat d'un travail de la part de ceux qui transmettaient les textes pour inventer des outils permettant de les transmettre parfaitement, chose qui sera également réalisée dans le monde arabe, puisque un peu plus tard, à l'époque où je me place au 7e siècle, on n'y est pas encore, mais plus tard, vers le 10e, 11e siècle, les gens auront inventer des outils pour apprendre le texte du Coran qui permettront d'être plus efficaces dans la mémorisation. Mais il faut bien voir qu'à cette époque, les choses se passaient de manière beaucoup plus informelle et dans un contexte, sur lequel je reviendrai plus tard, où les changements, les synonymes, étaient parfaitement admis, ce qui ne sera plus le cas par la suite. Donc, l'importance de trouver un système de notation absolument complet était une urgence réelle. Et il faudra d'ailleurs chercher dans les années à venir, on ne l'a pas encore fait, mais on commence à le faire, chercher à collecter de manière systématique la notation des voyelles brèves sur les plus anciens manuscrits vocalisés, de manière à confronter ces vocalisations avec ce que nous a transmis la tradition pour voir s'il y a accord, s'il y a désaccord, si on a des systèmes qui fonctionnent de manière différente. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait Kipling. L'absence de voyelles brèves dans des exemplaires manuscrits anciens ouvrait la voie à l'apparition de discordances entre les fidèles dans la mesure où il n'était pas possible de leur opposer un document qui, comme l'espérait le calife Osman dans le récit de Tabari, fixerait absolument le texte. De fait, les premiers siècles de l'islam virent une multiplication des lectures, ce que l'on appelle en arabe « qira'a ». Donc, lecture est un peu un terme impropre parce qu'il ne s'agit pas vraiment de lire, c'est plutôt une récitation. C'est la désignation, justement, de toutes ces particularités de prononciation associées avec le dopte qui varient entre différents personnages qu'on appelle les lecteurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils lisaient forcément le Coran, ils récitaient le Coran, mais comme le verbe, le nom qu'ils emploient, qari, a à voir avec le verbe qui veut dire lire aussi, la traduction s'est imposée de parler de lecture. Mais bien sûr, à l'époque, par exemple au 7e siècle, à l'époque où je me place, il y a des lecteurs qui lisent le texte que je vous ai dit, mais qui le prononcent avec leur voyelle à eux, celle qu'ils ont retenue, celle qu'ils estiment être les bonnes, même si elles ne sont pas sur le parchemin. Le sens de ce terme a varié au cours des premiers siècles de l'islam. Le commentaire exégétique de Soufiane al-Thawri, dont je vous mets les noms de personnages dont je parle en ce moment, de Soufiane al-Thawri, mort en 778, contient 67 exemples de variantes coraniques, dont 24 ont un rasme différent de celui de Osman. Donc il appelle ça Kira, mais pour des spécialistes musulmans plus tardifs, il ne s'agit plus de lecture, ce sont carrément une autre chose sur laquelle je reviendrai par la suite. Comme le rappelle un bon spécialiste de la question, Frédéric Lemhuis, je le cite, « Globalement, il apparaît qu'au IIe siècle de l'Égypte, 8e siècle, des variantes de lecture avec un rasme différent par rapport à la version osmanienne, était toujours discuté librement et était appelé soit kira, soit huruf. Donc il y avait deux termes qui les désignaient, et c'est ce deuxième terme, huruf, qui va progressivement se spécialiser pour désigner les choses qui n'entrent pas dans qui ne s'accordent pas avec le texte osmanien. Ainsi, différents commentaires exégétiques des 8e et 9e siècles, ceux d'Al-Farah, d'Abd al-Razak al-Sanani, de Soufiane al-Thawri ou encore de Tabari, ont recours, pour expliquer le sens du Coran, à des fragments coraniques qui ne sont pas tout à fait identiques à ceux que nous pouvons lire dans l'édition de 1924, au même endroit, dans la même sourate. Un examen montre que leurs auteurs qualifie par exemple une variante d'Ibn Mas'ud, définie par la suite comme fautive, inacceptable pour l'utilisation rituelle, soit de Kira, soit de Harf, comme le disait Lemhuis un peu plus tôt. Je laisse Ibn Mas'ud de côté, on va le retrouver par la suite et plus longuement, mais c'est un personnage très important dans cette histoire. Les deux termes, donc Kira et Harf, pouvait donc être équivalent, contrairement à ce que laissent penser certains commentateurs plus récents. Il ne désignait cependant pas non plus une variante orale, qui serait une kira, par opposition à une autre concernant le rasme et qui serait harf. Donc à l'époque ancienne, les choses sont beaucoup plus fluides, disons, que cela ne sera le cas plus tard. L'attitude de ces auteurs des 8e et 9e siècles, depuis Al-Farrah jusqu'à Tabari, montre que toutes les lectures dont ils se servaient au cours de discussions qui portaient sur tel ou tel passage du Coran étaient placées sur le même pied. L'important pour eux, très pragmatique, c'était de comprendre ce que disait le texte, même si on faisait appel à une lecture qui n'était pas celle de Osman. Il faut cependant souligner que ces savants étaient des exégètes et non des spécialistes du texte coranique, et il existait dès cette époque une claire distinction entre les deux domaines, distinction qui s'est maintenue au cours des siècles, même si les seconds ont en définitive imposé leur point de vue aux premiers. Les exégètes ne sont pas des lecteurs, ou rarement des lecteurs, et les lecteurs se sont fait forts d'obliger les exégètes à accepter le système auquel ils étaient parvenus. Et on rencontre encore aujourd'hui des ouvrages où, par exemple, quelqu'un fait la critique de Tabari en disant que c'était un type qui ne connaissait pas bien ses lectures parce qu'il emploie des choses qui sont parfaitement inacceptables, alors que Tabari est un exégète tout à fait reconnu. Mais si on se place dans la perspective de ces spécialistes très précis du texte coranique, les choses sont très différentes. Il y a le texte de Osman avec ses variantes autorisées et le reste qu'on ne peut pas utiliser. Dans le courant du 8e siècle, puis de manière encore plus nette pendant le 9e, l'idée qu'une lecture coranique devait être conforme au mushaf de Osman, souvent désigné de manière presque passionnelle notre Mossaf, gagna cependant du terrain. Au 8e siècle, je relève par exemple la condamnation par le juriste médinois Malik ibn Anas, dont je parlais tout à l'heure, de la version d'Ibn Mas'ud, alors qu'à la même époque, à Koufa, donc à quelques centaines de kilomètres de Médine où se trouvait Malik, les gens récitaient le texte d'Ibn Mas'ud. Tabari exprimait très nettement l'adhésion au seul rasm osmanien, même si lui-même avait à l'occasion recours aux variantes d'Ibn Mas'ud pour expliquer un texte coranique. C'est l'action d'un lecteur, Ibn Mujahid, qui fut en tout point décisive pour imposer définitivement le rasm osmanien comme le seul licite lors de la prière. Son traité sur les sept lectures définissait implicitement trois critères que devait remplir une lecture, une qira, pour être acceptée, peut-être même quatre si on retient une hypothèse avancée récemment par Shadi Nasser. Il faut souligner que dans son œuvre, Ibn Mujahid n'a pas formalisé une telle liste. Ce sont les commentateurs de son œuvre qui se sont chargés de les dégager et de les formaliser. Avec notre auteur, le mot « kira » change aussi légèrement de sens, comme le remarque Frédéric Lemoïs, passant de « façon de réciter le Coran » à « façon de réciter le texte écrit canonique du Coran ». Pour en revenir aux critères qui expliqueraient la sélection qu'il avait opérée, Ibn Mujahid prenait en considération, en premier lieu, l'obligation pour chaque lecture d'avoir été transmise de manière sûre et de recevoir l'adhésion de la majorité des spécialistes. Deuxièmement, le respect des règles de la grammaire arabe. Et enfin, la conformité au rasm osmanien. De manière extrêmement surprenante, l'écrit, puisque rasm, encore une fois, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, le rasm, l'écrit, était appelé à jouer un rôle essentiel pour la canonisation du texte, qui est d'autant plus frappant que Ibn Mujahid est un récitateur. Pour lui, ce qui compte, c'est la transmission écrite, et il le rappelle quand il dit que les lectures doivent être transmises avec un isnad, c'est-à-dire une sorte d'arbre généalogique parfaitement imparable. Aujourd'hui, les gens qui apprennent le Coran savent qu'ils ont appris le Coran de un tel, qui le tenait de un tel, qui le tenait de un tel, et on remonte jusqu'à Mohammed. Et c'est une chaîne qui est absolument importante dans la mesure où c'est une espèce de sceau de garantie que le texte qu'ils ont appris est bien le texte du Coran. Quant à la version d'Ibn Mas'ud, dont nous avons vu qu'elle avait un rôle à l'époque ancienne, Ibn Mujahid l'écartait parce qu'elle était, selon lui, antérieure à ce qu'il appelait le harf de Osman. Et on arrive là sur un point sur lequel il faudra revenir, mais cette antériorité était un élément qui disqualifiait définitivement ce texte. Alors, en quoi consistent les qirat? On va entrer dans des choses un peu plus techniques, mais j'espère que vous verrez ainsi comment les choses fonctionnent. Elles correspondent d'une part aux spécificités du rasm de chacun des masaïfs des al-amsar. C'est-à-dire qu'avec un manuscrit viennent toute une série de lectures, de récitations, qui ne viennent pas avec, que vous ne pouvez pas mélanger avec un autre Moussaf. Par exemple, si vous avez appris une lecture de Koufa, elle ne fonctionne pas avec le Moussaf de Syrie, par exemple, parce qu'il y a des points où ça ne va pas se retrouver en accord. Donc, les lectures correspondent chacune, en théorie, correspondent chacune à l'un des Masaïf al-Amsar. Encore une fois, le nombre des passages concernés où le point d'accrochage est important ne porte que sur une quarantaine de mots, ou de séries de mots, mais c'est quelque chose de très important. Alors, 40 pour son variante dans ce cas, mais les variantes qui concernent le dapt sont bien sûr beaucoup, beaucoup plus nombreuses. elle relève donc strictement de ce qui gravite autour du RAS. Des éléments qui, initialement, n'étaient pas notés dans les plus anciens exemplaires, soit faute de signes ad hoc, quand on parle des voyelles brèves et des signes orthoépiques, c'est-à-dire ceux qui ont à voir avec la prononciation correcte de l'arabe, soit parce que les copistes n'utilisaient pas tous ceux dont ils disposaient, et c'est le cas des points diacritiques. Dans les plus anciens manuscrits, alors que les copistes savent parfaitement utiliser les diacritiques, ils ne les mettent que une ou deux fois sur une page. Donc ça, c'est quelque chose qui est la conséquence non pas de l'absence de l'outil, mais du fait que les copistes considéraient que ça n'était pas très important. Les qiraat concernent avant tout des particularités de prononciation des voyelles qui sont sans effet ou très peu sur le sens du texte, mais aussi des différences qui affectent les consonnes, soit à cause de la ponctuation diacritique, soit à la suite de l'attribution d'une lettre à un mot ou à celui qui suit, soit enfin en raison de variantes affectant une ou deux consonnes qui sont soit changées, soit ajoutées. On peut penser qu'une bonne partie de la transmission orale remonte jusqu'à Muhammad. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure du tout. Mais, comme nous l'avons vu, la récitation répétée des révélations a pu parfaitement s'accompagner au moment même où il était en train d'annoncer le message dont il était porteur, de variations qui ont donné naissance à des traditions parallèles pour un même passage. Parce que quand vous répétez, vous pouvez tout à fait répéter un petit peu de manière erronée et introduire une voyelle qui, après ça, est répétée par quelqu'un qui vous a entendu, etc., etc. Donc il est possible que des phénomènes de ce genre aient joué à l'époque ancienne, et on a des récits sur lesquels je vais revenir qui vont tout à fait dans ce sens. Pour une partie des variantes, une autre genèse est cependant envisageable. Si l'on n'adhère pas à l'explication qui voit dans la multiplicité des lectures un aspect du miracle coranique, on peut chercher une explication à l'apparition de certaines d'entre elles du côté de la transmission du texte. Un bon spécialiste de cette question, Yassine Dutton, a synthétisé leurs caractéristiques. Il reconnaît cinq types différents. Alors, le premier, c'est de simples différences de prononciation qui n'affecte pas la forme du mot ou son sens. Alors, c'est le cas de l'imala, c'est-à-dire une modification du son A en E. Par exemple, vous direz, si on lit ce qui est écrit, vous avez kafirin, mais vous allez prononcer kefirin. Bon, c'est des choses qui ne sont pas très importantes, mais qui caractérisent telle ou telle lecture. Le deuxième point, des différences de prononciation impliquant une voyelle brève sans effet sur le rasme du mot ni sur son sens ou seulement légèrement. On a par exemple sad ou soud qui veut dire barrière dans les deux cas, ou encore udhn ou udhun, oreille. Et l'exemple le plus connu, c'est le verset 22 de la sourate 85. Que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Alors, je vous le présente sur un exemplaire d'un type d'ouvrage qu'on trouve assez facilement, où vous avez donc le texte du Coran, qui est ici dans cette partie-là, et puis sur le côté, tout cela concerne les variantes qu'on vous énumère. Et donc, pour le verset 22 de cette sourate, donc c'est le dernier verset de la sourate, vous avez donc ici les deux formes que l'on connaît. Donc, il y en a une qui est marfouzun, et l'autre, celle qui est marquée par une flèche, marfouzin. Le sens est le suivant. Donc, est-il parvenu le récit touchant les armées de Pharaon et les Tamoud ? Pourtant, ceux qui ne croient pas demeureront dans la dénégation, alors qu'Allah les tient à sa merci. Et voilà les deux derniers versets. Donc, pourtant, ceci est une prédication sublime sur une table conservée. Alors ça, c'est si vous lisez donc Lahin Marfouzin, Mahfouz s'accorde avec là-haut, la tablette, donc une tablette qui est préservée. Si en revanche vous lisez Mahfouzoun, ça s'accorde avec Coran, et donc c'est le Coran qui est conservé sur une table. Donc vous voyez, c'est un petit changement, mais qui n'a pas de conséquences très importantes. Alors, si on se reporte à un autre exemple, là je prends celui du mot qui signifie oreille, dans un autre passage, qu'on va comparer avec un exemplaire ancien du Coran. Donc ici, il s'agit du verset 61 de la sourate 9, et vous voyez donc ici le mot odoun, et ici, donc, on vous explique qu'il y a la variante oudn, qui est également utilisé, et on vous détaille donc toutes les références. Enfin, vous avez deux fois d'ailleurs le même mot, avec toutes les références qui l'accompagnent pour vous préciser ce qu'il en est. Alors vous voyez que la variation, elle est là, elle est dans ces choses-là qui sont au-dessus du mot. Si je prends maintenant mon Coran du 7e siècle, voilà le même mot, et vous voyez qu'il n'y a absolument rien, ni au-dessus, ni en dessous, ni au milieu. C'est le squelette consonantique seul qui est la transmission initiale, et vous comprenez très bien que quelqu'un pouvait parfaitement lire Udhun ou Udhn avec la même validité, dans la mesure où rien ne l'empêchait de faire un choix plutôt qu'un autre. Alors, si nous, le troisième point concerne maintenant des différences de prononciation impliquant une voyelle longue, principalement le A long, parfois aussi le I, qui peut être reflétée dans l'orthographe, ce qui n'est pas le cas habituellement, et qui n'affecte pas le sens ou seulement de manière insignifiante. Le cas le plus emblématique de ce type de variante est la différence entre les lectures « kala » et « kul » dont j'ai déjà parlé, qui intervient à quatre reprises dans le Coran et est répertoriée par les savants médiévaux spécialistes de ces questions parmi les variantes du rasme, dont je parlerai par la suite. Donc vous savez que « kul » veut dire « dit », c'est l'impératif, et « kala », il a dit. On a également d'autres variantes où ce sont d'autres mots qui sont concernés. Il n'y a pas seulement « kala » et « kul », mais disons que c'est le plus significatif. Et surtout, l'intérêt de « kala kul », c'est que c'est un verbe qui est extrêmement employé dans le Coran. Et donc, on peut trouver abondamment des exemples, y compris dans les manuscrits anciens comme celui-ci, qui ne sont pas complets. Là, vous avez un passage de la sourate 23, les versets 112 et 114. Donc, vous avez donc les versets 112 et 114. Donc, voilà, au 7e siècle, le copiste écrivait Kaf et Lam, et au verset 114, Kaf et Lam. Donc, est-ce que c'était Kala, est-ce que c'était Kul? Il n'y avait, disons, pas de contrainte du côté du manuscrit pour lire plutôt l'un que l'autre. Si vous vous reportez à l'édition du Caire, qu'est-ce que vous trouvez? Alors, je n'ai pas la page précédente, mais là, on a le verset 114. Vous voyez, on retrouve notre Kaf-Lam, hein, comme sur le Coran, mais vous voyez qu'il y a un petit quelque chose qui s'est ajouté ici. Et c'est un cas extrêmement intéressant parce que le Coran du Caire, c'est une lecture de Koufa. C'est la lecture de Hafs qui la tenait de son maître Asim, et c'est elle qui s'est imposée. Mais le problème, c'est qu'à Koufa, il n'y a pas un seul lecteur comme dans les autres villes, il y en a trois. Trois, et ils ne lisent pas de la même façon au même endroit. Deux d'entre eux lisent Koul, et le troisième, Kala. Et du coup, comme en principe, ils ont utilisé le même manuscrit pour développer leur lecture, l'édition moderne se doit de préserver cette fiction de l'utilisation d'un unique manuscrit. Donc ici, il n'est pas question d'écrire Kala, qui serait prendre parti pour l'un au dépit des deux autres, et faire sauter l'unité du codex koufien. On a donc mis le halon à cet endroit, au-dessus de la ligne. Vous voyez qu'ici, à la fin, vous avez « koul », l'impératif, et cette fois-ci, il est écrit de manière très claire, c'est « kul » et pas « kala ». On n'a pas ajouté ce petit alif pour faire la distinction. Donc, c'est quelque chose où ici, vous avez « kalu », donc la troisième personne du pluriel du verbe, et vous voyez que l'alif qui correspond à la forme du verbe à l'accompli est bien là. Donc, c'est vraiment un artifice graphique qui est une invention récente pour empêcher, disons, de ce que n'apparaisse de manière claire une distinction entre les trois lecteurs de Koufa. Donc ici, c'est clairement un cas où le rasme est concerné, et c'est parce qu'il est concerné que l'on a adopté cette solution. Quatrième type, alors si on se reporte à une encyclopédie des variantes, voilà comment ça se présente, vous avez toujours le même verset. Alors ici, vous retrouvez le kalakul écrit de manière à ce que ce soit utilisable par les deux, mais ici, vous avez à côté du verbe qui apparaît là-bas, vous avez quelque chose où on vous dit qu'il y a également kul qui représente la lecture de Hamza et d'Al-Kisari. Donc, les choses sont parfaitement claires, mais il a fallu inventer cet artifice typographique pour réussir à tenir compte des uns et des autres. Quatrième point, les qirat peuvent être des différences impliquant la ponctuation diacritique des consonnes sans que le rasme soit modifié et seulement avec une modification légère du sens. Alors, le cas le plus simple est représenté par une modification dans l'emplacement des points diacritiques qui permettent donc de distinguer entre les homographes sur la première lettre d'un verbe à l'inaccompli, caractérisée en arabe par la présence avant la racine d'un préfixe qui indique la personne. Si vous avez un ta, c'est une deuxième personne, un ya, une troisième personne, un nun, une première personne du pluriel. Ce qui est intéressant, c'est de penser que, alors que sur les manuscrits les plus anciens, nous avons des diacritiques, on nous dit que les diacritiques ont été inventés plus tard, et précisément pour ce problème-là, que la cause de l'invention des diacritiques serait précisément de réussir à distinguer entre les personnes. Ce qui est historiquement faux, puisque nous savons qu'ils étaient déjà connus avant. C'est simplement qu'on ne les utilisait pas. Donc, il y a de nombreux exemples. Par exemple, dans la sourate 36-68, verset 68, il est possible de lire le verbe soit à la deuxième personne, tarakiloun, soit à la troisième, yarakiloun, et le sens donc varie quand même un petit peu. Dans un cas, puisque c'est une interrogative, c'est « ne comprendrez-vous donc pas ?» et si vous adoptez la troisième personne, « ne comprendront-ils pas ?» Alors, ces variantes donc, sont très souvent des variantes qui concernent les verbes à l'inaccompli, puisque c'est leur caractéristique, moins fréquentes sont des occurrences où les différences de ponctuation diacritique concernent une des consonnes de la racine du verbe, ce qui est le cas dans la sourate 6 au verset 57. La moitié des lecteurs lit à cet endroit « yakusul haq », il dit la vérité, les autres optant pour « yakdil haq », il décide la vérité. Sont également concernés des cas où la division en lettres est modifiée par la suite d'une répartition différente des diacritiques. Alors, il y a un cas très intéressant dans la sourate 10, verset 22. La majorité des lecteurs lit « yusayyirukum », mais deux lecteurs lisent « yanshurukum ». Alors, c'est très intéressant parce que, par oral, la différence est éclatante. « Yusayyirukum »,« yanshurukum », vous n'entendez pas les mêmes choses. Mais le rasme n'est pas concerné, ce sont les points qui viennent dessus et qui se répartissent différemment. Et il y a donc eu, à partir d'une mauvaise répartition des bâtons, si vous voulez, parce que vous avez soit une séquence comme ceci, soit une séquence comme cela, qui à l'origine pouvait tenir à l'existence de quatre petits traits qui étaient les uns après les autres et donc dont on ne savait pas si c'était ceci ou cela qui allaient ensemble. Donc ce sont des choses où le rasme non ponctué de l'époque ancienne a eu une influence très forte sur ce que les gens ont lu. Donc, dans le premier cas, le sens du verset, c'est, je vous traduis le verset, c'est lui qui vous fait voyager sur la terre et la mer, tandis que les deux autres lisent, c'est lui qui vous répand sur la terre et la mer. Alors, si on se reporte à un manuscrit, je n'ai pas de passage pour la sourate 10, mais pour la sourate 6, le verset 57, on voit sur le manuscrit, hein, vous avez cette séquence. Donc, hein, une indentation, quelque chose qui peut être lu soit comme un fa, soit comme un kaf, et quelque chose qui peut être lu soit comme un sod ou un dod. Hein. Donc, ça, c'est la donnée du manuscrit du 7e siècle. Et c'est là où les différences de lecture ont fait évoluer les choses. D'une part, donc voilà la chose, donc Yakusu qui est une des lectures, et l'autre lecture, voilà, Yakdi. Alors les choses se sont transformées parce que Yakdi suppose un ya long, un ya pour le ilon, et donc il a fallu ajouter au rasme ici un élément qui n'y était pas à l'origine. Donc là, on a une espèce d'aller-retour entre l'écrit et l'oral. On lit l'oral l'écrit d'une certaine façon, on le prononce et on revient à l'écrit et on le modifie pour pouvoir être grammaticalement correct, puisque Yakdi, avec simplement un dod final, c'est quelque chose qui ne marchait pas. Enfin, le dernier point de ce qui caractérise les qirat, les différences impliquent le changement, l'ajout ou l'omission d'une ou deux consonnes du rasme avec seulement un effet minime sur le sens. Alors, ce sont des variantes comme wa la yahafu au lieu de fa la hayafu. Alors, la différence est minime, vous avez wa au lieu de fa, ce sont des conjonctions de coordination qui ont des sens assez voisins. Donc c'est quelque chose qui intervient à plusieurs reprises, par exemple dans la sourate 91, au verset 15, ou encore, et je vais vous montrer cet exemple sur un manuscrit, donc là, vous avez... oui, c'est ça. Ce verbe qui caractérise donc une des lectures, donc vous avez « wasareu », donc, et ils coururent, ils se précipitèrent, vous avez un autre lecteur qui ici lit, attendez que je le retrouve, voilà, Sario, sans le wao, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir et quelque chose, il y a simplement le verbe lui-même. Donc vous voyez que ce sont des différences assez réduites, mais qui caractérisent un manuscrit et le distingue des autres. Alors, d'image pour le, me semble-t-il, pour le manuscrit dont je viens de parler. Bon. Alors, cette typologie en cinq catégories peut nous servir à aborder les différentes facettes de ces kirat qui sont réellement une spécificité du corpus coranique. C'est quelque chose de très typique du texte coranique. Et surtout, cette typologie nous permet d'établir des liens qui nous éclairent sur l'histoire et la chronologie du texte et de ses variantes. Il est bien possible que dans plus d'un cas, comme je le disais tout à l'heure, nous ayons affaire à des faits qui remontent à Mohammed lui-même ou, d'une manière plus générale, à l'époque de sa prédication. Mais, comme je le disais également, nous n'avons pas de traces documentaires autres que les manuscrits qui viennent, disons, 30, 40 ans plus tard. En revanche, les manuscrits montrent que pour trois des cinq catégories que je viens d'énumérer, donc ces manuscrits n'étaient pas en mesure de donner quelque indication que ce soit au lecteur parce que le système d'écriture, dans l'état où il se trouvait alors, ne pouvait pas renseigner sur ces points. Il laissait au contraire à chacun la possibilité de choisir de les lire d'une manière plutôt que d'une autre. Les trois catégories dont je parle ne concernent que le dapt. La première et la deuxième concerne une différence de vocalisation et l'absence de notation des voyelles brèves, puis leur emploi progressif dans les copies du Coran. En laissant la place à une part d'interprétation, ces mêmes copies ont pu permettre l'apparition de nouvelles variantes qui ne correspondaient donc pas nécessairement à un enseignement de Muhammad lui-même. Des défaillances de mémoire ou encore le recours à une liberté de choix qui était reconnue à l'époque aux récitateurs peuvent expliquer ponctuellement ces variantes. La chronologie de leur apparition est problématique. Comme au IXe siècle, les signes des voyelles brèves n'étaient pas encore systématiquement ajoutés, et ce, parce que des savants s'opposaient, et c'est intéressant, à cette innovation. Il y a des Malik, par exemple, dit surtout n'utilisez pas de vocalisation, sauf pour les Corans destinés à l'apprentissage des enfants. Mais pour les adultes, pas de voyelles. Donc il y avait une opposition. Donc en dépit de tout ça, nous pouvons faire l'hypothèse que les lectures sont apparues jusqu'à une date assez tardive, puisque jusqu'à la fin du IXe siècle, on a des manuscrits qui ne sont pas complètement vocalisés. Les exemples qui illustrent la quatrième catégorie concernent une ponctuation diacritique différente avec le même rasme. Dans l'exemple que nous avons vu en 36-68, la lecture du denticule initial dépourvu de points diacritiques ne pouvait se guider sur le contexte. Certains ont pensé qu'il fallait reconnaître un « ya », et donc une troisième personne, alors que d'autres optaient pour le « ta », une deuxième personne. Mais le contexte ne permettait pas de dire « c'est forcément ceci ou forcément cela ». L'absence sur l'exemplaire utilisé de points au-dessus ou en dessous de la première lettre peut, dans ce cas, expliquer la variante. Il en va de même pour 6-57, que nous avons vu, donc « yakusu » ou « yakdi », selon qu'on estime que la deuxième lettre de la racine porte ou non un point diacritique et qu'il s'agit donc soit d'un dod, soit d'un sod. La variante de la sourate 10 au verset 22 représente une situation moins fréquente que la précédente, mais bien plus révélatrice. Il paraît surprenant qu'un message initial donné aboutisse à deux lectures oralement aussi différentes l'une de l'autre. Yanshurukum d'un côté, Yusayyerukum de l'autre, l'origine en est, selon toute vraisemblance, l'interprétation d'une séquence de quatre denticules dépourvues à la fois de ponctuation diacritique, probablement parce qu'ils étaient écrits avec un soin limité, absence de diacritique, et aussi de marques de voyelles brèves. La majorité des lecteurs optent pour une division 3+1, donc sin plus ya, et non 1 plus 3, ce qui implique deux lectures qui sont très différenciées. Dans tous ces cas, il ne s'agit plus de l'absence d'un outil graphique comme c'était le cas pour les voyelles brèves, mais d'un sous-emploi d'une composante du système d'écriture, les diacritiques. Curieusement, à mon sens, si la transmission orale avait eu le poids qu'on lui suppose, la confusion entre Yusayyurukum et Yanshurukum n'aurait jamais dû apparaître. Dans ce cas, c'est l'ambiguïté de l'écrit qui lui a donné le jour. À quel moment ? Il n'existe pas d'indice clair pour le décider, mais de très fortes présomptions me conduisent à considérer que c'est relativement ancien, parce que des graphies de qualité, même non diacritées, se sont imposées dès la seconde moitié du 7e siècle. Une difficulté similaire de lecture des manuscrits anciens explique une autre série de variantes. Les copistes des premiers temps appliquaient à l'arabe la tradition antique de la scriptio continua, dans laquelle les lettres sont également espacées indépendamment de leur appartenance à des mots. Autrefois, donc, dans les anciens manuscrits latins, par exemple, ou grecs, toutes les lettres sont à la même distance les unes que les autres et le travail du lecteur était considérable puisqu'il fallait lire, couper au bon endroit et continuer. Donc ça demandait réellement un travail intellectuel. C'est que ça n'est que assez tardivement au Moyen-Âge que dans l'Occident on a commencé à séparer les mots et peut-être sous l'influence de l'arabe. Pour l'arabe, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, dans la mesure où, comme vous le savez, Il y a certaines lettres qui sont toujours attachées à l'intérieur d'un mot et d'autres qui sont toujours séparées. Mais ça fait qu'il n'y a pas des espaces partout, il y a seulement à certains endroits. Et donc, dans une première étape, cette répartition similaire des blancs entre les lettres et les groupes de lettres était imitée de l'Antiquité. Et donc, dans un petit nombre de cas, une lettre pouvait être lue comme allant avec le mot suivant ou avec le précédent. Donc, cette répartition... C'est quelque chose dont on a une petite, on a des traces, et on trouve en particulier dans la sourate 74 au verset 33, selon la place qu'on attribue à l'alif, de le lire soit avec la particule ida au lieu de id, et à ce moment-là le verbe commence à par un alif. Alors je crois que je l'ai. 22. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce qui est ici. Donc, id adbara. Donc, si l'alif qui est là va rejoindre le premier groupe et devient ida, qui est une conjonction de subordination, à ce moment-là, on a autre chose. Voilà, par exemple, une des possibilités. Alors, cette fois-ci, l'alif s'est dédoublé, mais on a ici ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'alif a rejoint le alif et le va, donc ida et dubira. Donc, la coupure est avec le même nombre de lettres et les mêmes lettres tout à fait différentes. Alors, le changement n'est pas considérable, mais c'est intéressant de voir qu'on a des variations qui sont des variations clairement venu à la suite de la lecture, du déchiffrement de ces manuscrits avec des points en nombre limité et des espacements encore imprécis. En ce qui concerne la troisième catégorie, elle se place à part pour des raisons historiques. Elle concerne donc le rasme. L'orthographe des plus anciens manuscrits, les plus proches du moment où, selon le scénario conservé par la tradition, la mise par écrit du texte a eu lieu, est différente de celle que les savants qui ont préparé l'édition du Caire considéraient haussmannienne. Elle était sensiblement plus défective, notamment, on l'a vu, par l'emploi, disons assez limité, de la lettre alif pour noter les halons. Dans une phase d'amélioration qui a pris place entre la fin du 7e et le milieu du 8e siècle, des alifs ont été ajoutés en des points où les copistes ou les savants estimaient que leur présence éliminerait un risque de confusion. Donc là, vous avez un très beau manuscrit d'époque omeyyade, et le verbe « kala », donc la troisième personne de l'accompli, dans les deux cas. Alors, disons que 30 ans plus tôt, le copiste n'aurait pas écrit cet alif, ni celui-là, mais à ce moment-là, donc on se place vers 800, mettons, à ce moment-là, une réforme est intervenue et on ajoute un alif pour distinguer les deux formes verbales. Donc c'est quelque chose qui modifie le rasme. Dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, des manuscrits de la phase la plus ancienne ont été corrigés par un lecteur ultérieur qui a ajouté ces alifs, qui a gratté le parchemin pour éliminer la connexion entre le kaf et le lam, et il a ajouté son petit alif pour transformer quelque chose qui pouvait être lu de manière indifférente, cool, kala, en un kala bien différent de cool. C'est également ce qui s'est produit dans la sourate 18 au verset 74. Le rasme initial a été complété par un alif dans les copies des écoles qui lisaient za kia avec un halon, mais il est resté le même chez les autres écoles qui considéraient que c'était le ya qui était redoublé ou géminé, donc zakiya, ce qui ne se traduisait graphiquement que par l'ajout d'un signe spécifique au-dessus de la lettre concernée à une date plus tardive. Par la suite, un signe spécifique qui se situait au même niveau que le dapt a été introduit pour compléter la notation de ces alifs manquants dans les cas qui avaient été laissés de côté par les réformateurs de la période omeyyade et du début de la période abbasside, qui avaient fait déjà un premier travail d'ajout d'alif pour donner la prononciation exacte. Même si le phénomène phonétique concerné est le même, le traitement graphique de ces deux éléments est différent. En les regroupant, et c'est ce que fait Dutton, on privilégie une approche linguistique au détriment d'un point de vue historique. Si l'on se place dans cette perspective, le rasme était initialement le même partout et la différence de prononciation l'a fait évoluer. Cette dernière est apparue très tôt, puisque des manuscrits de la fin du 7e siècle ont déjà introduit l'orthographe nouvelle. Donc là, on a vraiment une datation possible extrêmement claire, dans la mesure où les manuscrits sont là pour nous renseigner sur le moment où se fait le changement. Bon nombre de variantes s'expliquent donc par l'utilisation et le déchiffrement de manuscrits ambigus qui ont influencé ceux qui les employaient, et non par une récitation nécessairement plurielle à l'origine. Certes, l'écrit s'est également employé à reproduire l'oral quand l'occasion se présentait et que les outils graphiques étaient disponibles. À la différence des éditions modernes, les témoins manuscrits de la seconde moitié du 7e siècle ne donnaient pas à leurs utilisateurs une image complète de l'état du texte. Ils l'informaient seulement, et ce n'était pas peu, sur le rasme. Ce n'est sans doute pas un hasard si les variantes qui le concernent, notamment celles qui ne résultent pas de réformes orthographiques plus tardives, sont beaucoup moins nombreuses que celles qui affectent le dapt. La tradition musulmane est d'ailleurs restée marquée par cette dichotomie rasme-dapt et a préservé au cours des siècles une distinction de facto entre les deux. Les variantes qui concernent chacun d'eux portent de fait sur des points bien distincts et relèvent, nous l'avons vu, d'une chronologie bien différente. De fait, elle pourrait même être analysée de manière assez fine pour déterminer des terminus ante quem pour les différents types de variantes à la lumière de ce qui est observé dans les manuscrits. Ces derniers peuvent nous fournir des indices à ce propos. En tout état de cause, il apparaît déjà que le corpus coranique tel que nous le connaissons n'est pas un bloc parfaitement homogène, mais intègre des éléments de dates différentes. Les lacunes de la transmission écrite ne sont pas les seules à l'origine des variantes qui se manifestent dans la transmission orale. Celle-ci semble pourtant être née sous une bonne étoile, même si les savants médiévaux étaient désireux de démontrer que la transmission orale du Coran était fondée sur un faisceau considérable de cheminements parallèles et dignes de foi. Ibn Hajar al-Asqalani, mort en 1449, n'affirmait-il pas, au mépris de l'évidence démographique, que le nombre des compagnons dépassait les 100 000 ? Ce qui est absurde du point de vue historique, dans la mesure où il n'y avait pas autant de gens à l'époque à Médine. En dépit du soin pris par la tradition musulmane pour collecter les données susceptibles d'authentifier ce point, et notamment les noms de ceux qui constituent les différentes chaînes de transmission ou isnad qui partent de Muhammad jusqu'à notre temps, un examen critique de ces sources permet de conclure que le nombre de ceux des compagnons qui connaissaient par cœur le texte de la révélation au moment de la mort de Muhammad est en fait extrêmement réduit. Claude Gilliot a ainsi montré, à partir de données très contradictoires et difficiles à évaluer, que seuls 38 compagnons avaient mémorisé de manière partielle ou complète le texte du Coran. À partir des données collectées par des auteurs médiévaux à propos des chaînes de transmission des lecteurs, il ressort en revanche que seuls 8 compagnons sont à l'origine du savoir que revendiquent les 7 ou 10 autorités en matière de lecture coranique, à l'origine des récitations reconnues par l'islam. Il s'agit des personnages suivants, donc Omar, Ubay, Ibn Mas'ud, Abu Darda, Osman, Ali, Abu Musa al-Ash'ari et Zayd ibn Thabit. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que le nombre des califes dans la liste est assez important, ce qui laisse penser que des considérations d'ordre qui sont plus du domaine du politiquement correct que de l'historiquement exact ont joué. D'ailleurs, dans un ouvrage consacré justement à la transmission du texte coranique, Ibn al-Jazari, qui est un des grands spécialistes de la question, ajoute les noms du premier calife, Abou Bakr, comme ça tous les quatre sont concernés, celui d'Anas ibn Malik, qui est un compagnon absolument incontournable, de Aïcha, la femme du prophète, et de Abdallah ibn Omar, donc le fils du premier calife, qui est aussi un personnage qui joue un rôle assez important dans la transmission des premiers temps. Donc, comme ça, on met tout le monde sur la liste et on est sûr que personne ne sera mécontent. Le chiffre indiqué initialement n'est pas très éloigné, il faut le souligner, de celui des compagnons qui sont à l'origine de la transmission de l'essentiel des hadiths, c'est-à-dire cette personne. Il y a un parallèle entre le hadith et le Coran qui est tout à fait intéressant, qui laisse penser qu'il y a eu sans doute des allers-retours entre les deux domaines. Encore doit-on remarquer que l'accord n'est pas unanime sur le rôle effectif. Certains commentateurs médiévaux, parce que les savants musulmans médiévaux avaient aussi le sens critique et donc n'hésitaient pas à remettre en question certaines choses, donc certains d'entre eux contestent très vivement l'implication de l'un ou l'autre de ces personnages dans la transmission du Coran. Ainsi, Al-Dhahabi, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'indique pas que Omar ait mémorisé le texte coranique du vivant de Muhammad. De plus, on peut légitimement douter que ses responsabilités, lorsqu'il était calife, lui aient laissé le temps, en plus, d'enseigner le Coran, parce que ça n'est pas simplement de l'avoir appris. Ça est également, comme ils sont à l'intérieur de l'isnad, il s'agit également de transmettre, d'enseigner le texte du Coran. Et vous imaginez que le calife avait peut-être d'autres choses à faire dans son existence. De fait, la présence des noms des trois califes bien guidés attire l'attention. Il est bien tentant d'y voir une inclusion davantage dictée par la piété que par des arguments historiques très forts. En revanche, ni Abu Darda, mort en 652, ni Abu Musa al-Ash'ari, deux compagnons qui sont des personnages importants, ne figurent dans la liste des porteurs du Coran, c'est-à-dire de ceux qui avaient mémorisé l'intégralité du texte qui remonte aux d'après un renseignement qui remonte à Anas ibn Malik. Or, Abu Darda, numéro 4, et Abu Musa, numéro 7, sont dans la liste. On a à leur propos un renseignement qui dit qu'ils n'avaient pas appris le texte du Coran intégralement. Donc, là aussi, on a un flottement qui doit être souligné. Enfin, un épisode de la mise par écrit, alors ça c'est un détail que j'ajoute, mais qui a quand même son importance, un épisode de la mise par écrit donne un rôle important à un certain Khuzaïma. Vous vous souvenez, j'ai parlé de lui lors de la première séance, de ce personnage qui arrive au dernier moment et qui dit « Ah ben c'est moi qui ai les deux derniers versets de la sourate 9 et personne d'autre ne s'en souvenait ». Alors si on prend au pied de la lettre cette donnée, il s'ensuit qu'aucun des autres compagnons ne pouvait prétendre connaître tout le Coran, puisqu'il était le seul à se souvenir de ces deux versets. Donc là aussi, c'est un petit peu contradictoire. Quelle que soit la réalité en ce qui concerne le rôle de tel ou tel des compagnons dont le nom figure parmi ceux de la liste que vous voyez, la transmission initiale du texte dans son ensemble se trouve concentrée entre un nombre assez limité d'acteurs et en plus, on verra par la suite que même cette liste est problématique dans la mesure où elle intègre des gens qui ne peuvent pas avoir transmis le texte haussmanien puisqu'ils avaient leur propre version. C'est le cas d'Ibn Mas'ud. En admettant que cette poignée de compagnons ait effectivement été à l'origine de la transmission initiale du texte, cette dernière ne devrait en principe pas présenter une très grande diversité. Or, l'observation des deux premiers siècles de l'islam fait apparaître que les systèmes de récitation se sont véritablement multipliés. En ne prenant en considération que les systèmes dits canoniques, dont fait bien entendu partie celui qui est suivi par l'édition de 1924, et en se limitant aux 10 lecteurs, les 7 sélectionnés par Ibn Mujahid, auxquels ont été ajoutés 3 noms dans le courant du Xe siècle, mais sans tenir compte du second ajout de 4 lecteurs par la suite, on parvient à un total de 20 systèmes indépendants qui résulteraient de la transmission initiale par les 7 figures que j'ai citées. Dans ce cadre conservateur, au sens où je me limite à ce qui est en quelque sorte la norme de l'islam officiel, chacun des 10 lecteurs est en effet connu par le biais de 2 transmetteurs, d'où mon total de 20. Le total réel est en fait de 80, puisque chaque transmetteur est à son tour transmis par 2 autres savants, et si on prend d'autres critères en compte, nous pouvons aboutir à un nombre de systèmes encore bien plus important. Cette discordance peut surprendre et invite à regarder de plus près l'histoire des lectures. De fait, au cours du siècle et demi qui suivit la disparition de Muhammad, les lectures se sont multipliées, je l'ai dit, une prolifération qui menaçait de créer une situation échappant à tout contrôle. Dès le 8e siècle au moins, des spécialistes ont par exemple procédé à des sélections, en arabe irtiyar, parmi les lectures dont ils avaient connaissance. Cette pratique, qui d'après les rares témoignages dont nous disposons, semble avoir reposé sur des préférences personnelles, autorisait un lecteur à puiser dans différents systèmes de lecture celles qui lui semblaient les meilleures. Cette procédure sera interdite absolument par la suite, mais il y a eu une époque où réellement il y avait un côté créatif dans le rôle du lecteur. Il pouvait faire sa propre lecture. Pour illustrer ce point, il n'y a pas besoin d'aller chercher du côté des gens qui sont, disons, des parias de la transmission du texte. Il suffit de se tourner vers un de ceux qui, par la suite, est devenu l'une des autorités dans ce domaine, à savoir le lecteur Nafi, mort en 785. Il aurait suivi, pour la récitation du Coran, l'enseignement de 70 maîtres différents. La liste de leurs noms ne nous est malheureusement pas connue dans le détail, et je laisse de côté l'aspect un petit peu symbolique de ce chiffre de 70, qui a un côté un peu magique. Hein, admettons qu'il en ait connu 70. Et on rapporte qu'il aurait déclaré « Je retiens la lecture sur laquelle deux lecteurs sont d'accord, et je laisse celle qui est particulière. » Alors, à supposer qu'il ait tenu ces propos, que devons-nous comprendre ? On peut imaginer que pour une lecture, par exemple, il y a eu plusieurs fois deux lecteurs qui étaient d'accord. Il était obligé donc de faire un choix. Et que se passait-il dans le cas de lecture qui, pour des raisons contingentes, se trouvait réduite ? Imaginons par exemple une école qui n'est plus représentée que par un seul personnage, donc il n'y a pas le fameux deuxième pour attester cette lecture. Cette disparition, c'est tout simplement la mort, le départ, etc., des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la validité d'une lecture, mais simplement avec la vie de tous les jours. Donc il est tout à fait imaginable que une très bonne lecture représentée par un seul personnage est disparue, alors qu'une lecture fautive mais transmise par deux personnages ait eu droit à survivre. Donc vous voyez que le critère qui nous est annoncé à propos de ce lecteur qui est important, puisque c'est un des imams, n'est pas absolument rassurant. Donc, le critère de sélection indiqué, et qui rappelle bien entendu la façon dont les versets du Coran auraient été validés pour pouvoir entrer dans le corpus coranique réalisé par Haussmann, est avant tout de nature juridique, en fait. Il faut 2 témoins pour qu'un témoignage soit valide. Il a ces 2 témoins, donc tout le monde est tranquille. L'œuvre des 7 transmetteurs, qui, comme Nafir, ont été sélectionnés au début du Xe siècle par Ibn Mujahid pour constituer le canon de la transmission orale. Dans ce cas, bon, ce n'est pas la peine de dire orale, puisque c'était la seule chose qui intéressait Ibn Mujahid, est en définitive très mal connue. Comme je l'ai indiqué, leurs systèmes sont validés par leur compatibilité avec l'orasme haussmanien, leur conformité à la grammaire arabe et par l'accord de la communauté à leur propos. Sur le premier point, Ibn Mujahid a pris en compte une donnée qui correspond à la 2e étape de la mise par écrit sous le califat de Haussmann, celle de la confection de copies destinées aux provinces qui, comme nous le verrons, inclut des variantes qui seraient la conséquence, comme nous l'avons eu, pardon, inclut des variantes qui seraient la conséquence de fautes de copie. Il est de toute évidence impossible de les faire remonter à l'enseignement de Mohammed, puisqu'elles se sont introduites dans le texte après sa mort. Une des copies, et je reviens sur un point que j'ai exposé, celle de Koufa sert de support à la transmission de trois lecteurs, Hassim, Hamza et Al-Kisai. Le premier mort en 745, le deuxième Hamza en 772 et Al-Kisai en 804. Donc vous voyez que ce sont pour certains d'entre eux des gens qui ont vécu assez tardivement, 804, le début du 9e siècle. On a quand même presque 200 ans qui se sont écoulés depuis la mort de Muhammad. Cette situation particulière a été analysée avec beaucoup de pertinence par Shadi Nasser, qui observe en particulier que le deuxième lecteur, Hamza, était à l'origine considéré avec beaucoup de méfiance, sa lecture étant jugée douteuse, à tel point qu'on plaisantait sur ses capacités en matière de qira. Un brocard, à son propos, joue à la fois sur un de ses noms, un des noms sous lesquels il était connu, Ibn Az-Zayyat, littéralement le fils du marchand d'huile, et sur les problèmes du dopt à l'époque ancienne. Cette anecdote plaisante veut qu'il ait lu au début de la deuxième sourate Zaït, huile, au lieu de Raïb, doute, et qu'il ait compris le verset, donc là je vous l'avais au tableau, donc en haut c'est le, si vous voulez, c'est ce qu'on pouvait voir sans doute sur les manuscrits les plus anciens, encore qu'à son époque on faisait déjà beaucoup mieux, donc Zalik el Kitab la Raïb fihi. Et donc, si on lit ceci, la Raïb ou la Zaït, donc on lit ceci est un livre où il n'y a pas d'huile au lieu de où il n'y a pas de doute. Bon, mais c'est une plaisanterie sans doute utilisée par les gens qui n'aimaient pas Hamza pour dire qu'il était un imbécile et qu'il ne comprenait rien. C'est un peu grossier comme plaisanterie, mais ça illustre bien les problèmes du dapt. Donc, cette plaisanterie qui repose sur les confusions possibles de lecture entre les exemplaires ou les points qui différencient les lettres de même forme n'apparaissait pas, montre bien les doutes qui pesaient sur lui et qui n'étaient peut-être pas tant suscités par ses compétences de lecteur, mais plutôt par ses liens avec le chiisme qui, à l'époque, dominait à Koufa. Pourtant, écrit Nasser, que je suis sur cette analyse, et je le cite, « La lecture de Hamza fut à même de passer du statut d'innovation, bid'a, donc c'est vraiment une critique forte, hein, quand vous qualifiez dans le domaine religieux quelque chose d'une innovation, c'est de l'hérésie pure et simple. Donc sa lecture fut à même de passer du statut d'innovation à celui de révélation divine en moins de 100 ans. » Et c'est effectivement le Ibn Mujahid qui, en choisissant cet homme pour être l'un des trois représentants de la transmission de Koufa, qui l'a mis sur ce piédestal. Le cas de Koufa est intéressant parce qu'il semble bien que Koufa, qui était une citadelle du chiisme à l'époque, posait un problème à Ibn Mujahid qui devait sans doute avoir à gérer l'attribution du codex de Koufa à quelqu'un et qui ne trouvait à son époque aucun lecteur qui, comme à Damas, à Médine ou à Basra, s'était vraiment détaché du lot et était parfaitement crédible comme représentant d'une tradition. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi trois lecteurs qui étaient chacun contestés pour une raison ou pour une autre, de manière à pouvoir dire ben, ce sont eux qui sont les représentants du codex de Koufa. Mais nous avons vu que cela venait avec un problème, puisque le fameux Kala Kul de la sourate 23 était en quelque sorte une épine dans le pied, alors peut-être pas pour Ibn Mujahid, mais par la suite, c'est un point qui a posé problème dans la mesure où la théorie selon laquelle la transmission orale était exactement en phase avec le manuscrit a chopé sur une difficulté. Alors nous verrons la semaine prochaine, puisque nous arrivons à la fin de cette séance, des choses plus intéressantes, puisque nous allons aller maintenant explorer, disons, ce qui a été rejeté, les lectures qui n'ont pas été admises et celles qui posent problème et qui éventuellement donnent des pistes sur la façon dont d'autres variantes ont pu apparaître. Je vous remercie.